j'ai l'impression. Les nôtres, elles sont quand même beaucoup plus complexes. Je me mets au défi d'ailleurs de m'expliquer exactement ligne par ligne ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est assez payé? Est-ce qu'il est trop payé? Que pensez-vous de ce montant de 14 586,32 euros net avant impôt?
32,16 pour dire Roger. Elina, ouais,
écoute, quand on voit le chiffre comme ça, tu te dis... bah oui, pour un président de la République, ça paraît évident. Mais attends, ce qu'il a en plus, ça c'est pas évident.
Là, on parle de 14 500 euros. Moi, je vous parle de 20 000 euros à gagner grâce à la RMC, la roue multicash. Elle va continuer de tourner la roue toute la semaine prochaine, dans toutes les émissions, dans tous les shows d'RMC. Vous venez d'entendre l'alerte, c'est le moment d'envoyer roue. Vous avez 5 minutes, hein, pas plus. 5 minutes pour envoyer roue par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. On fera tourner la roue toute la semaine prochaine et vous pourrez gagner jusqu'à 20 000 euros. Faut pas vous gêner, à vous de jouer, à vous de gagner. Vous connaissez le dicton dans les GG, dans les grandes gueules. Ma chère Elina, oui. Je te rends la parole.
Alors, je disais, tu m'as dit quoi?
Non.
C'est pas ça. Bon, bref.
On vous laisse aller.
Non, mais excusez-moi. Ce que je voulais dire, non, mais ce que, en plus, il paye pas de logement.
Non, il est logé.
Alors que pour moi, président de la République...
Mais ça figure comme avantage en nature sur sa fiche de paie, si j'ai bien vu. Oui. Donc c'est bien fait, c'est propre.
Non, mais moi je suis sûr, attends. Président de la République, il devrait être comme tout le monde, payer son loyer, l'EDF...
Tu peux avoir un logement de fonction. Il y a des gens qui ont des logements de fonction.
Mais pour lui, à mon avis, c'est une contrainte de vivre à l'Élysée. Je me souviens de Sarko qui disait j'aurais préféré rester chez moi.
C'est pas le costume, je suis sûr que c'est pas lui qui paye. Enfin, moi, pour moi, ça, c'est son argent de poche, tu vois.
Ouais. Ouais, toi, après, franchement,
honnêtement, ses vacances, il les fait où?
Payé
avec nos impôts.
Elina, moi, je regarde une chose, c'est que notre classe politique s'est affaiblie en termes intellectuels, en termes de niveau de recrutement de nos élus, simplement parce que c'est pas assez payé. Il y a un certain nombre de députés Renaissance qui, après le premier mandat, ont dit non, mais nous, on va pas se représenter parce que dans le privé, moi, directeur machin, je gagnais 3 fois plus. Et là, je viens de passer 5 ans à me faire engueuler. C'était horrible, etc. Alors, je ne dis pas qu'il faut plaindre nos élus. Moi-même, j'ai fait de la politique. Quand on est candidat, on l'est de manière volontaire. Mais honnêtement, avec le niveau de responsabilité, etc., je pense que le président, comme les députés, sont trop peu payés. Et que bien payer nos élus, c'est s'assurer d'avoir des gens de qualité. C'est s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui disent « Oh, moi, je ne vais pas faire ça parce que je vais perdre... »
C'est qu'il y a des hauts fonctionnaires qui sont mieux payés que lui.
Oui, d'accord. Oui. Mais moi, si je choisissais d'être une élue, je ne ferais pas par rapport à l'argent. Je ferais parce que je suis animé par quelque chose.
Oui. Mais,
justement, tu as quand même la responsabilité de 66 millions de Français.
Bah, oui.
Tu as la responsabilité des conflits, etc. Moi, j'ai regardé en fait les différents salaires que pouvaient gagner les autres présidents. Ceux qui gagnent plus, le président des États-Unis, il gagne 33 000 dollars par mois. Le chancelier allemand, 25 000 euros par mois. Le premier ministre de Singapour, bah, lui, c'est carrément 91 000 euros par mois. Il est à 1,1 million d'euros annuels. Hein, on ne joue pas dans la même cour. J'ai regardé le premier ministre canadien, il est au même niveau qu'Emmanuel Macron. Le premier ministre australien, lui, il est à 20 700 euros. Et ceux qui gagnent moins, eh bien, c'est le premier ministre espagnol, lui, qui gagne 7 000 euros. Le premier ministre du Portugal, 6 500 euros. La Pologne, 1 800 euros par mois.
1 800 euros par mois.
La Pologne, ouais.
Ah oui.
Le président de la Lituanie, 8 300 euros. Et notre premier ministre grec, pays qui a été en faillite, hein, je le rappelle, 7 123 euros par mois.
Par rapport à ce qu'il disait, est-ce que les pays où ils sont mieux payés que M. Macron, ça va mieux?
Bah, à Singapour, je pense pas. Ouais.
Ah,
tu vas payer au mérite.
Ça va bien, attends, Singapour.
Moi, je pense qu'on pourrait avoir une prime au résultat.
Vrai sujet. Ouais,
alors, ils arrêtent pas de.
Mais, par exemple, sur la critère de répondre aux promesses que tu as pu faire aux Français, par exemple, est-ce qu'on a le plein emploi en ce moment? Les chiffres du chômage sont publiés aujourd'hui. Hein, je parle d'exemple. Bah non, ils sont à 7,5, on n'est pas au plein emploi. C'est pourtant la promesse de ce quinquennat.
Mais il a fait économiser 4,4 milliards avec sa politique pour le plein emploi. 4,4 milliards annuels.
Oui, mais il y a un DRH en France, pour les élus, c'est l'électeur.
Bien sûr.
C'est le français.
C'est l'électeur qui
décide. Ils ont réélu Emmanuel Macron, malgré le fait qu'il ne soit pas content. Donc,
après, il y a des hauts fonctionnaires, vous le savez, qui sont mieux payés qu'Emmanuel Macron.
Oui,
le gouverneur de la Banque de France, il a 280 000 euros en brut par an. Il a une indemnité de logement qui avoisine les 70 000 euros par an. Et Le Monde nous apprend aujourd'hui qu'au niveau des transports et des voyages, c'est 50 000 euros de notes de frais. Parce que visiblement, il ne circule qu'en business, il ne prend pas d'écho. Il aime bien les hôtels de luxe. Je vous conseille la lecture du Monde.fr, ouais. C'est tombé ce matin. Pardon, bon, moi je suis plus choqué par ça. Est-ce que le patron de la Banque de France doit à tout prix voyager en business?
Le président des États-Unis, 30 000 dollars.
33 000 dollars.
Première puissance mondiale, 33 000
Biden,
dollars.
Il est richissime. Hein.
Non, mais.
Là, pour le coup, c'est vraiment de l'argent de poche pour Joe Biden.
Ah, oui, oui. D'accord, mais tu vois, même moi-même, je suis surpris parce que en tête, j'avais une somme qui était quand même plus importante.
Ouais, moi, ceux qui gagnent plus,
le président des États-Unis.
Ceux qui gagnent plus en France, tu parlais des fonctionnaires, ceux qui gagnent plus en France,
le président de la République,
ce sont les présidents d'autorités administratives indépendantes, les dirigeants des grandes entreprises telles que EDF, SNCF, qui gagnent beaucoup plus, les hautes juridictions. Donc, ce sont les membres du Conseil d'État, la Cour des comptes, notamment les présidents de ces institutions qui gagnent plus. La haute fonction publique gagne plus.
Le président de la Cour des comptes, en plus, Moscovici cumule les retraites d'élus, etc. Je crois qu'il a plus de 20 000 euros par mois. C'est peut-être, si on doit peut-être réguler, c'est peut-être plus là.
Les sages du Conseil constitutionnel gagnent plus.
Oui.
On a Tony qui nous appelle de Gironde. Qui est grutier. Bonjour Tony.
Bonjour, vous allez bien, Gégé?
Ça va, monsieur Tony? Vous êtes dans la grue, là, en ce moment?
Non, pas du tout. On ne travaille pas.
Ah, ça va. Repos. Ouais, bien mérité. Sinon, vous êtes sur un chantier habituel en ce moment?
Oui, mais là, en ce moment, pile pour la mienne. J'ai pas beaucoup de frais, vous voyez. Donc, comme Macron, pareil.
Et vous êtes sur une grue, vous êtes à combien de hauteur quand vous êtes dans la grue?
Alors, les plus petites, elles sont à 30 mètres, mais sinon, ça peut aller à 80.
Et vous êtes déjà allé à 80, ouais?
Non, je suis à la 55 une fois.
C'est déjà bien, c'est 55 mètres. Hein. Bon, revenons à notre Macron. Que pensez-vous de son traitement, de ce qu'il gagne, alors, Tony?
Non, mais on est la France. Alors, je sais qu'on a dégringolé le 7e pays, la 7e puissance, mais oh, c'est que dalle pour un président de la République française. On est pas au Botswana, quand même. Alors, désolé pour les habitants du Botswana, mais enfin, voilà. Mais en revanche, on sait très bien qu'il ne fait pas ça pour l'argent, M. Macron. Ou même le président, ils font ça pour le pouvoir et ce que ça va apporter derrière. On sait très bien qu'il a gagné mieux avant et qu'il gagnera mieux après. Non, je pense que. Bon, là, il a un gros carnet d'adresses. Il fera comme Sarko, des conférences à 100 000. On le sait, tout ça.
Il se payera après, c'est ce que vous dites.
Oui, je pense que là, c'est le pouvoir qui est intéressant là-dessus. Mais c'est vrai que bon, 15 000 balles pour le. Enfin, je veux dire, il y a des PDG, ils doivent rigoler quand même. Hein. Ils doivent se dire, 15 000 balles, le mec, il gère la France quand même. Il gère pas un kebab à Bobigny, quoi. Je veux dire.
Critiquez pas trop les kebabs à Bobigny quand même.
Désolé, j'habite pas
Bobigny. Créteil. Tu préfères de Créteil?
Mais c'est vrai que Tony, le chef de l'État, ne dépense rien. Donc finalement, c'est 14 000 par mois. Ça fait 7 ans qu'il est à l'Élysée. Si t'as la calculette, on peut faire, tu vois, le ratio avec le nombre de mois, le nombre d'années, et voir combien il a gagné.
À la rigueur, le plus choquant, à la rigueur, ça serait d'entendre dire qu'au bout de 10 ans, il a déjà la retraite. Ça serait peut-être le plus faux-camp. À la rigueur. Moi, avec 2000 euros par mois, il va falloir que je travaille 45 ans pour en avoir 1003. Vous voyez?
Non, mais je pense que la retraite des élus, on peut la toucher qu'à l'âge de la retraite.
Le président de la République, pendant 6 mois, je crois. Je crois que c'est 6 mois, il touche son traitement.
Il touche. Il a à sa disposition un logement, secrétaire, agent de sécurité, logement de tout.
Alors ça, moi, ça me choque plus.
Pas logement de fonction, bureau.
Oui, mais moi, tu vois, ça me choque plus. Parce que Nicolas Sarkozy, je comprends quand c'est un vieux président. Bon, il ne va pas retravailler, donc il est à la retraite. On lui donne de quoi le secrétariat, parce qu'il reçoit du courrier, il est sollicité. Et puis des gardes du corps, c'est normal. Mais quand c'est des gens qui vont ensuite avoir une activité, comme ça sera sans doute le cas d'Emmanuel Macron, comme c'est le cas de Nicolas Sarkozy, moi, je ne vois pas bien pourquoi on devrait lui payer un appartement pour travailler, etc. Il peut se payer eux-mêmes. C'est là
attendez,
où ça va
attendez.
Pas.
Imaginez-vous, président de la République, devoir prendre une décision très impopulaire pour le pays à quelques mois de la fin de ton mandat. Tu te dis, si je suis pas protégé derrière, si je suis pas mis à l'abri, je vais me retrouver dans la rue. Est-ce que je vais prendre cette décision impopulaire nécessaire pour le pays ou pas? Eh ben moi, je pense que garantir la sérénité pour le président à l'issue de son mandat, c'est lui permettre d'être serein dans son mandat et de prendre éventuellement une décision difficile et impopulaire juste avant. Donc protégeons-les pour qu'ils puissent bien bosser.
En tout cas, ce que je viens de comprendre, je sais pas, c'est peut-être dans ma tête, Antoine, j'ai compris un truc. Si un jour ton parti passe au pouvoir, ils vont bien se payer. Je me comprends ce que je dis, moi.
Tony, je vous remercie d'avoir été dans
l'économie,
dans les GG. Bonjour, Tony. Au revoir, Tony. Pardon, bonne journée. Bonne journée, Tony. William est avec nous. Bonjour, William.
Bonjour. Alain.
Consultant dans les banques, dans les Hauts-de-Seine, du côté de Bagneux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, William?
Moi, ce que je disais au standard, justement, moi, je trouve que c'est même pas assez payé, hein, pour la responsabilité qu'il a. Ouais, c'est pas assez payé. Et justement, moi, je pense qu'il faut plus aller regarder sur, il y a certains, une partie des hauts fonctionnaires surtout du côté de Bercy qui gagnent beaucoup plus.
Bien sûr.
Qui, voilà, c'est de ce côté-là, pour moi, qu'il faudrait être plus regardant, parce que pour un président de la République en France, gagner 14 000 balles, désolé du terme, c'est pas assez payé, hein, surtout avec le contexte.
Alors justement, c'est intéressant, William. Pour vous, quel serait le bon revenu, le bon salaire? On va demander au GG d'abord. Stéphane.
Franchement, le plafond d'un chef d'entreprise de service public, c'est-à-dire 400 000 euros annuels.
Ouais, c'est-à-dire aux alentours des 30 000 euros par mois, quoi, c'est ça.
30 000 euros par mois.
Antoine,
J'aurais dit à peu près la même chose, mais à condition d'avoir une transparence absolue sur tous les frais annexes. Ouais. C'est-à-dire que un peu à l'image des premiers ministres nordiques qui le soir rentrent en vélo chez eux dans leur appartement ou en métro.
Le président normal on l'a eu, hein, c'est bon.
Non mais souviens-toi, c'était le député René Dosière qui avait demandé la transparence sur tous les frais de l'Élysée, ce que nous coûte l'Élysée. Donc 30 000, Elina.
Écoute, moi je suis désolé, mais je trouve que ça va très bien.
Très bien.
Sachant
toi, tu restes à 14 000.
Attends, sachant qu'il y a tous les frais annexes qui sont payés, quoi. Faut pas se faire.
Oui, et puis alors. Et vous, William, alors.
Il y a des résidences.
Voilà.
En week-end, en vacances. Ouais,
allez-y, William.
Et les Français galèrent.
Vous parlez de transparence. Justement, ça serait intéressant. Si on parle de transparence pour le président, il faudrait qu'il y ait de la transparence à tous les niveaux, à tous les niveaux de l'État. Et aussi au niveau des fonctionnaires. Parce que moi, il y a plusieurs années, j'avais suivi un documentaire, justement, qui parlait des rémunérations des fonctionnaires du côté de Bercy. Et je suis sûr que la plupart des Français ne sont pas au courant des niveaux de rémunération qu'on peut avoir en tant que haut fonctionnaire. Et pour moi, de la transparence, s'il faut de la transparence de manière précise, il faut à ce niveau-là, il faut à tous les niveaux.
Et William, je confirme ce que vous avez dit, et je vais vous citer un livre, parce que nous l'avons reçu aux grandes gueules, ça s'appelle « Les intouchables d'État ».
Et ça,
ça raconte tout ce qui se passe à Bercy. Ouais. Et on les avait reçus. Et vous allez voir, vous allez être écœuré quand vous allez lire le bouquin.
Non, mais c'est clair. On a des rémunérations du patron jusqu'à 40 ans, payées par le contribuable.
Merci William d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end. À bientôt, William. Bye. 14 586 euros de salaire pour le président de la République, pour Emmanuel Macron. À votre avis, est-ce que c'est mérité?
On connaît la réponse.
On a un petit quart d'heure. Oui, c'est le président. 56,6%. Non, c'est indécent, 43,4%.
Ouais, c'est négatif. Beaucoup plus modéré que ce que je croyais. Et les auditeurs qui ont appelé aussi ont une position extrêmement modérée.
Non, mais le problème,
les Français sont peut-être enfin en train de changer. Moi, on a le droit de gagner de l'argent dans ce pays.
Je pense que les pauvres, ils n'ont plus assez d'argent, même plus un centime pour s'éliminer.
J'entends, Elina, mais là...
Il faut téléphoner pour voter ou aller sur Twitter.
Oui, d'accord.
Bah attends, ça se passe comme ça, non?
Dans un instant, un succès. Au cinéma. On voulait en parler depuis un petit moment avec les grandes gueules, mais on attendait que nos GG soient allés voir ce film. Mm-hmm. C'est un petit truc en plus, le film d'Artus, avec plus de 2 millions d'entrées. Un père et son fils en cavale qui trouvent refuge dans une colonie de vacances pour adultes en situation de handicap. Les rôles des handicapés sont tenus par les handicapés. C'est vraiment le succès. Est-ce que ça peut changer notre regard sur le handicap? Vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes vous-même parent d'enfant handicapé. Le 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Tous les week-ends, de midi à 13h, c'est les paris RMC.
Conseils, pronostics, meilleures cotes, préparez vos paris sportifs du week-end avec la Dream Team Sport RMC.
Les paris RMC, le rendez-vous des parieurs, tous les samedis et dimanches, midi 13h, avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules vous donnent la parole. Les GG vous attendent au 32-16 avec Elina Dumont, intervenante sociale, avec Antoine Dirs, consultant auprès des entreprises, avec Stéphane Manigold, restaurateur. On vous attend pour évoquer le film succès du moment. Il s'appelle Un petit truc en plus.
RMC, les grandes gueules.
Il va passer sans doute la barre des 3 millions d'entrées là, très bientôt, peut-être à l'issue de ce week-end. Le film d'Artus, un petit truc en plus, avec un père et son fils. Le fils c'est Artus, le père c'est Clovis Cornillac. Ils sortent d'un braquage et pour échapper à la police, eh bien, Artus se fait passer pour un handicapé, Clovis Cornillac pour un accompagnant. Ils se retrouvent dans une colonie d'handicapés. Ouais. Et c'est le film, la comédie, avec de vrais acteurs handicapés qui dépassent toutes les espérances. Est-ce que ça peut changer le regard sur le handicap? Est-ce que ça peut améliorer les choses? 32-16 pour en discuter avec les G. Petit extrait.
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Très très proche, hein.
Ça, c'est sûr. Jour et nuit.
Allez, va.
Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tu n'es pas handicapé.
Si, tu veux pas handicapé.
Bah, on voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein.
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui, Ludovic?
C'est ma petite bite. C'est ce qu'ils font en prison dans les douches.
Pardon?
Voilà, voilà, avec Alice Belaïdi aussi, qui est actrice. C'est donc le succès du moment. C'est Florian qui va en parler tout de suite avec nous, qui est au 32-16, qui est enseignant spécialisé pour élèves en difficulté. Bonjour Florian.
Ouais, salut les GG.
Ouais, vous avez appelé tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites de ce film alors?
Eh ben moi, en fait, ce film, au lieu de faire des commissions qui servent à rien là, sur la TNT et tout ça, je le ferai diffuser à l'Assemblée nationale. Et oui. Je poserai la question du bilan concernant le handicap depuis 7 ans.
Mmh.
Voilà. Et parce que ce film, il est génial. Il montre des gamins extraordinaires. Et moi, je travaille avec des enfants comme ça. Et c'est la réalité.
Mais vous travaillez avec des handicapés?
Ouais.
Mais vous dites le bilan, et en gros je comprends que le bilan est très mauvais, pourquoi, sur quoi précisément il y aurait des choses à faire?
Ah bah par exemple, moi ma fille est autiste.
Oui.
Macron a annoncé un plan autisme qui a juste réduit des places en centre, en CRA, donc en centre de dépistage de l'autisme. Ils ont transformé ça en une espèce de plateforme et y a encore plus d'attentes.
Ah ben bon.
Voilà. Non mais Florian, vous avez raison. En France, l'handicap est très peu pris en compte, que ce soit dans les écoles, dans le logement, enfin c'est une cata, dans les transports, que ce soit quelle que soit
par
la
exemple,
métropole.
Les Jeux Olympiques, on nous avait promis que ça serait les Jeux Olympiques.
À part l'île Saint-Denis, ouais. Comme par hasard.
Non mais les Jeux Olympiques, on nous avait dit que ça serait les Jeux Olympiques de l'inclusion.
Ouais,
bah, alors certes, les nouvelles stations de métro, etc. Mais prenez le métro avec un fauteuil. Avec une poussette
même,
quand vous avez les enfants, c'est l'enfer.
Avec des béquilles, tu veux pas.
C'est un faisable. Et même les trottoirs.
Ah oui, bien sûr, les trottoirs.
Les trottoirs avec les fauteuils roulants quand tu dois pousser une personne, c'est la catastrophe.
Les trottoirs, ils sont dénivelés par rapport à la route. Alors,
Florian, on va être avec Taïeb aussi, qui nous appelle du Rhône, de Lyon. Bonjour, oui. Taïeb.
Bonjour, les grandes gueules.
Est-ce que vous avez vu le film ou pas, Taïeb?
Je vais le voir ce week-end. Moi, justement, je suis très content qu'il y ait un film sur le handicap. Parce que le dernier, en fait, film remonte avec plusieurs années, c'était Intouchable. Et en fait, moi, ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est que j'espère que ça permettra d'un peu de changer le regard. Moi, typiquement, je cherche une opportunité au sein de, je sais pas, d'entretien chez des concurrents. Clairement, il y a beaucoup d'a priori. Et en fait, les gens, en fait, présupposent ce qu'on est capable de faire ou de pas faire. Au lieu de poser des questions et vont anticiper sur une possibilité de d'absence ou de non-présence ou de manque de pouvoir réaliser certaines tâches. Or, en fait, mais justement, au-delà d'être comme tout le monde, moi, je suis enfin content qu'il y ait quelqu'un qui, avec bienveillance, se foute de notre gueule. Moi, je suis super content.
Mais pourquoi tu dis se foute de notre gueule? Pourquoi vous dites ça, Taïeb?
Parce qu'il se moque dans le film.
Attendez, parce que vous êtes handicapé vous-même?
Oui, je suis handicapé moi-même. Et c'est que je suis handicapé moteur, très affiché, ça se voit. De toute façon, quand on me voit, on m'oublie pas vu mon handicap moteur. Mais justement, c'est que moi, j'ai essayé notamment de contacter des comiques à ce propos-là, c'est de leur dire, c'est soit effectivement on est comme tout le monde et faut se foutre de nous comme n'importe qui, soit on est en dehors de la société et à ce moment-là, faut nous préserver et pas se moquer de nous. Mais si on veut partir de la société, faut se foutre de notre gueule, nous tailler, nous critiquer et justement s'amuser avec nous et de nous, au contraire.
En France, c'est un délit.
Non, ouais, mais, non, là, mais c'est bon, faut arrêter la défense. Moi, comme je dis aux comiques, moi, je peux faire de paratonnerre, foutez-vous de ma gueule.
Mais vous vous souvenez qu'il avait été attaqué, Patrick Timsit, pour son sketch sur, sur les handicapés. Voilà, et il avait, il s'était retrouvé au tribunal.
Mais là, là, ce qui marche, qui l'a vu là autour de la table?
Moi, je suis allé le voir il y a 48 heures à Dunkerque, la salle était pleine. Et on parle de sujets complexes là, handicap, ça part en débat, ça parle de politique. Et en réalité, c'est pas ça le film. Le film, pour moi, c'est avant tout une bonne comédie familiale française. J'ai passé un bon moment, j'ai versé ma petite larme parce que c'est émouvant. Et ça montre que on peut encore faire des films en France qui soient pas ni moralisateurs, ni dans une espèce de politiquement correct. C'est pas la nouvelle histoire d'amour de la cadre de la défense qui tombe amoureux de Boubacar qui arrive, qui est un jeune migrant. Non, c'est bon, ah, on en a marre de ça.
La place là, et le truc du migrant là.
T'es obligé. La minute en train de dire, c'est pas elle qui place le migrant.
Et tu vas voir où je veux en venir.
Le médicament, il fait plus effet. La cadre serait jouée par Camille Cotin, par exemple.
Alors attendez. Et je vais aller au bout, Stéphane. Je pense que le succès de ce film montre que les Français n'ont pas peur de la différence.
Ah,
et vraiment, quand c'est pas moralisateur, les gens y vont et apprécient.
Non, non, c'est pas vrai. Il y a une vraie discrimination, c'est-à-dire que réellement, moi je le vois. Alors, on passe un entretien, objectivement, si, moi je le vois bien. Je suis désolé. Le nombre de fois où j'ai pas été pris dans des emplois, ou des sociétés même que j'ai contacté peu de temps après, je leur ai demandé si mon handicap avait joué contre moi. Eux-mêmes m'ont dit, objectivement, ça fait partie intégrante de notre décision. Donc, je suis désolé.
Mais d'accord, mais le film, ce que dit Antoine, c'est que le film, c'est pas un film à thèse. Il est pas là pour faire la leçon. Et justement, je pense que c'est ça qui marche. Ça marche parce que c'est sous le biais de l'humour, et de la comédie. C'est un peu politiquement incorrect. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un humour quand même qui est très, très, très correct, pour ne pas dire inexistant.
Oui, c'est.
Parce qu'on a toujours peur de prendre une plainte d'une association, de quelqu'un qui se serait senti offensé. La personne se sent offensée.
Exactement. Et Taïeb, je me permets, vous voyez tout de suite, vous embrayez sur la question de la discrimination, je ne nie pas les difficultés, mais là, ce sujet, sa force, c'est de pouvoir parler du handicap sans aller sur ces sujets.
Moi, j'ai vu mardi, j'ai adoré parce que quand je suis sorti du cinéma, comme tout à l'heure notre auditeur, j'ai dit, mais c'est bien, c'est un film sur les gamins. Mais c'est pas des gamins, en fait. C'est des adultes, ils ont une quarantaine d'années. Ouais, et donc, tu sors, mais pourquoi tu dis c'est des gamins? Parce qu'ils se comportent comme des gamins, avec de l'humour, beaucoup de légèreté. Ce truc qu'on nous voudrait tous un peu avoir, justement, c'est cette légèreté de la vie. Et quand tu rentres, quand tu les vois, la scène où ils sont dans le magasin, je vais pas raconter tout le film, mais quand ils sont dans le magasin et puis qu'ils commencent à se moquer d'eux-mêmes et qu'ils traitent les autres de débiles, etc., je trouve ça hyper drôle. Et il y a une autre scène qui m'a plu, mais ça, c'est le côté restaurateur, c'est quand ils jouent, et on l'a tous fait, quand ils jouent au cuisinier, au serveur, et qu'ils en ont marre de manger de la malbouffe, des boîtes et des trucs complètement dégueulasses, et qu'ils commencent à cuisiner du frais. Moi, j'ai trouvé ça génial, mais ça m'a rappelé aussi une autre scène, plus délicate, celle que j'ai vécue à la ZUB de Mulhouse, où nous avions une école pour personnes à déficience sensorielle. Et je me souviens de gamins qui ramassaient de la merde, leur donnaient en disant que c'était du chocolat et leur faisaient bouffer ça. Et ça, c'était absolument abominable. Et je vois que ce film a été tourné, et c'est aussi une réalité, à la campagne, pour préserver ces gamins. Parce qu'effectivement, quand ils sont face au grand public, eh bien, ça se passe pas bien. Mais je trouve que le fait de montrer justement cette accessibilité, cet humour, et le fait qu'on puisse aussi rire avec ces personnes qui sont des personnes à part entière, comme nous, avec quelques différences comme on peut tous avoir, eh bien, moi, j'ai trouvé que ce film était formidable. Ouais, ça peut aider.
C'est ce qu'on appelle un feel-good movie aussi. Parce que dans une société un peu anxiogène, dans des moments un peu où l'actualité est un peu dure, je pense que ce genre de film, ça fait du bien aussi.
Je remercie Florian et Taïeb d'avoir été avec nous. Merci, messieurs. Et enfin, on revient sur le « on peut rire de tout ». Salut Taïeb, merci d'avoir été dans les GG. Dans un instant, on en parlera avec Jean-Charles, dont le frère est handicapé. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Oui, je voulais dire quelque chose. Moi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est que moi, je crois vraiment, au septième art. Non, mais si, c'est vrai. Pour parler de choses dont les gens ne pensent que par des clichés. Je suis désolé, l'handicap en France, les gens, ils ont des clichés. Ils se disent pas ah mais en fait, il est comme nous, il aime bien rigoler, il est pas bête. Je suis désolé, ce qu'il a dit tout à l'heure l'auditeur, c'est une réalité.
Le film donne pas de leçons, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et d'ailleurs, évidemment, faut passer par l'humour. C'est comme moi quand je parle du sans-abrisme via le théâtre, je le dis avec beaucoup d'humour noir, parce que sinon les gens ils vont repartir en chialant. Et le but c'est de montrer qu'est-ce que c'est d'être sans-abri
avec
comme
la
là.
Légèreté. Enfin,
et moi je trouve que le titre est très bien parce que moi je reste convaincu. Que quand et tout ça à cause de la société, quand on a souffert de l'exclusion au plus profond de ses entrailles, eh ben n'empêche, on a forcément quelque chose en truc que les gens qui n'ont pas, qui ne passent pas par un handicap ou qui ne passent pas par je sais pas comment dire,
des difficultés de vie,
des difficultés de vie mais atroces.
Alors Jean-Charles est avec nous.
Attends, j'en profite. Vas-y. Je voudrais Alain qu'on fasse un bonjour à
Média Handicap.
À Sébastien
Proyard.
Et je peux vous assurer que Sébastien, que je commence à bien connaître grâce à Alain, ben je peux vous assurer quand on sait d'où il vient, mais ce mec.
Il a la maladie de Charcot, ouais, il s'occupe avec son association de handicapés lourds dans les maisons
que même nous, on
d'aide
pas.
Spécialisée. Mmh. Ouais, bien sûr. On a fêté les 20 ans de Média Handicap.
Et toi, on y a rencontré, tu vois, Lisa et tout.
Oui, bien sûr.
Bien,
on y était avec Elina. On les salue, on essaie de les aider en parlant d'eux, notamment Média Handicap, parce que. Il faut soutenir tous ces gens qui sont dans des structures handicapées lourdes où parfois on manque de personnel. Et c'est vrai que c'est un combat quotidien, un combat de tous les jours. Jean-Charles, bonjour.
Oui, bonjour.
Jean-Charles, vous avez vu le film ?
Oui, tout à fait, oui.
Et qu'est-ce que vous en dites de ce film alors ?
Je le trouve extraordinaire parce que moi j'y suis allé avec des amis, avec ma famille. Ma femme, ma fille n'étaient pas très friandes de venir avec moi parce que tu vois, on va se moquer des handicapés, parce qu'elle voyait Artus avec son spectacle, etc. Elle ne le connaissait pas trop. Et lorsqu'on regarde ce film, effectivement, vous disiez que ce n'est pas une leçon de vie, mais on se rend compte de la singularité et puis la difficulté qu'il y a pu avoir à faire ce film. Et aussi, on ressort de là allégé. La fin de l'histoire est assez poignante. Oui. J'ai vu ma fille avoir une larme, ma femme qui se dit ah ouais, je me suis trompé. Voilà, et j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui sera dans ce cas-là et les réticents qui aillent le voir parce que ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien.
Mais
ça fait du bien de voir
vous,
ça.
Vous avez un frère handicapé, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui. Un frère handicapé, on a été concerné dans la difficulté. Hein. C'est un handicap assez léger, mais pour vous dire, à l'époque, 7 ans d'attente avant de rentrer dans un ESAT. Ouais. Ça a été très compliqué. Il est resté longtemps chez mes parents qui ont tout fait pour lui. Là, il est autonome, etc. Donc, il s'en sort assez bien. Mais voilà. Et quand on voit ça, on en sort, on en réjouit, quoi.
Ce film met l'accent sur ces héros aussi que sont les éducateurs.
Oui.
Qui changent, en fait, la vie.
Les accompagnants.
Les accompagnants, tous ceux qui participent à s'occuper de ces personnes qui sont en situation difficile. Ouais. Et donc, c'est un sacré coup de projecteur aussi pour tous ces éducateurs et éducatrices.
Complètement, les éducateurs, les professionnels de santé qui gravitent. Hein. Je suis infirmier de profession, j'ai travaillé aussi dans le monde du handicap. Et effectivement, ça met en lumière l'amour, parce qu'on peut parler de soins et de rester de son côté et pas avoir d'affect, mais c'est pas possible avec des personnes dans cette situation. Et au bout d'un temps, comme vous le dites, ça va vraiment en lumière ce rôle-là aussi. Et puis de l'importance qu'ils prennent dans nos vies, quoi.
Bien sûr. Merci Jean-Charles d'avoir été avec nous dans les grandes gueules. Merci. Allez, un dernier témoignage, celui de Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour tout le monde. Donc en fait moi j'appelle parce que j'ai le syndrome juste de la Tourette depuis que j'ai 6 ans en fait. C'est un syndrome assez rare, peu connu mais connu. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant sur à la télé, sur internet, dans des créations. D'ailleurs, c'est Cigarettes et chocolat chaud qui est un film extraordinaire qui parle de ce syndrome. Et en fait, moi j'ai kiffé le film hein, parce que c'est l'humour. Hein. Moi mes potes ils me font rire avec mon propre syndrome, je les fais rire.
Vous pouvez rappeler c'est quoi le syndrome Gilles de la Tourette?
Alors j'ai 35 000 contractions donc de muscles par jour en moyenne, et j'ai des TOC aussi, des troubles obsessionnels compulsifs.
D'accord.
J'ai le TDAH, j'ai la bipolarité, en fait tout ça rentre dans un syndrome qui s'appelait Saint-Homme Gilles de la Tourette. Et quand j'étais petit, j'ai vécu un calvaire, hein, collège, lycée.
Ah, j'imagine.
Ça a été terrible le regard de l'autre, si on donne des armes aux enfants, ils se tuent, quoi. Donc, franchement, et aujourd'hui, j'en parle avec une force parce que j'en ai fait une force. J'ai fait du théâtre. Dès que je fais du théâtre, en fait, j'ai plus de tics, j'ai plus rien. Ah, dès que je chante, c'est pareil, comme c'est Vincent Lindon. Je sais pas, je pense que vous connaissez. Voilà. Voilà, et du coup, l'humour, la créativité, c'est génial, voilà.
C'est super, bon, en tout cas, vous en parlez très bien, et ce film, parce que dans ce film, il y a un handicapé qui a le syndrome Gilles de la Tourette.
Ouais. Oui, exactement.
Il y a un peu tous les syndromes, en fait. Mais il y avait un film qui avait été sorti en 2014 d'Éric Lartigot, qui s'appelle La famille Bélier, qui avait cartonné justement.
Et d'ailleurs, il y a Intouchable aussi.
Excusez-moi, je fais une parenthèse qui a été extraordinaire de ce film. C'était des parents qui étaient sourds. Oui. Et en fait, c'était que dans des salles, mais pas pour les sourds émus. Alors là, j'avais trouvé ça énorme.
Oui, c'est pas faux non plus.
Jean-Baptiste, félicitations dans tous les cas pour en parler comme ça facilement, librement avec
toutes
nous.
Les salles de cinéma, les fauteuils roulants pourront avoir accès dans les salles de cinoche. Voilà,
on pourra le faire.
C'est pas toujours le cas, je peux te le dire, moi. Non, mais il n'y a pas que Paris dans la vie. Hein.
Donc vous recommandez le film, Jean-Baptiste?
Comment?
Vous recommandez ce film?
Ah oui, carrément, et je vous recommande vous aussi à la France entière. Hein. Voilà.
Merci Jean-Baptiste. Salut, merci Jean-Baptiste. D'avoir pris la parole dans les GG. Salut Jean-Baptiste. Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez du film? Un petit truc en plus. C'est le film Grande Gueule sur le handicap. Est-ce qu'il peut faire avancer la cause? Ça peut faire changer les choses dans le regard sur le handicap? Vous dites non. Non à 65%.
Film ne suffira pas.
Oui, c'est ça.
C'est ce que ça veut dire. C'est le message que les Français envoient.
Mais il y participe.
Oui, mais bon, derrière, il faut des actions concrètes.
Il y participe 35%, le chantier est beaucoup plus important que ça, à 65%.
C'est vrai, mais le politique, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder le nombre d'entrées, il va voir qu'il y a plus de 3 millions d'entrées. Il va dire, il y a un
truc. À mon avis,
électoralement, il y a un truc. Donc,
ils vont aller jusqu'aux 5 millions, là. C'est bien parti.
Ah oui, complètement. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les restaurants, les hôtels, les avions et compagnies aériennes sans enfants, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que c'est bonheur ou cauchemar?
Voilà, bonheur ou cauchemar. Est-ce que c'est discriminant ou après tout c'est la liberté du commerçant de dire moi je vous fais un petit espace sans enfants, vous venez ou vous venez pas après tout. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules. Le samedi soir, 19h-20h30 sur RMC, c'est Stephen Time. Avec Stephen Brun et Benoît Boutron, ne ratez rien de l'actu sport de la première partie du week-end. De nombreux invités, des débats enflammés et forcément, beaucoup d'humour. RMC, Stephen Time, ce soir, 19h-20h30. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules vous donnent la parole. Les GG vous attendent au 32-16 avec Elina Dumont, intervenante sociale, avec Antoine Dierce, consultant auprès des entreprises, avec Stéphane Manigold, restaurateur. On vous attend pour évoquer le film succès du moment. Il s'appelle Un petit truc en plus.
RMC, les grandes gueules.
Il va passer sans doute la barre des 3 millions d'entrées là, très bientôt, peut-être à l'issue de ce week-end. Le film d'Artus, un petit truc en plus, avec un père et son fils. Le fils c'est Artus, le père c'est Clovis Cornillac. Ils sortent d'un braquage et pour échapper à la police, eh bien, Artus se fait passer pour un handicapé, Clovis Cornillac pour un accompagnant. Ils se retrouvent dans une colonie d'handicapés. Et c'est le film, la comédie, avec de vrais acteurs handicapés qui dépassent toutes les espérances. Est-ce que ça peut changer le regard sur le handicap? Est-ce que ça peut améliorer les choses? 32-16 pour en discuter avec les GG. Petit extrait.
On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente.
Très très proche, hein?
Ça y est, sûr. Jour et nuit.
Allez, va!
Yo, putain! Qu'est-ce que tu fous là, toi?
Tu n'es pas handicapé?
Si, tu veux pas handicapé?
Bah, on ne voudrait pas.
T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne?
Je dis rien à personne. À pas Ludovic.
C'est qui Ludovic?
C'est ma petite bite! C'est ce qu'ils font en prison dans les douches!
Pardon?
Voilà, voilà, avec Alice Belaïdi aussi qui est actrice. C'est donc le succès du moment. C'est Florian qui va en parler tout de suite avec nous, qui est au 32-16, qui est enseignant spécialisé pour élèves en difficulté. Bonjour Florian.
Ouais, salut les GG.
Ouais, vous avez appelé tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites de ce film alors ?
Ben moi, en fait, ce film, au lieu de faire des commissions qui servent à rien là sur la TNT et tout ça, je le ferai diffuser à l'Assemblée nationale. Et oui. Je poserai la question du bilan concernant le handicap depuis 7 ans. Voilà. Et parce que ce film, il est génial. Il montre des gamins extraordinaires. Et moi, je travaille avec des enfants comme ça. Et c'est la réalité.
Et vous travaillez avec des handicapés ?
Ouais.
Mais vous dites le bilan. Et en gros, je comprends que le bilan est très mauvais. Pourquoi ? Sur quoi précisément il y aurait des choses à faire ?
Ah bah, par exemple, moi, ma fille est autiste.
Oui.
Macron a annoncé un plan autisme qui a juste réduit des places en centre, en CRA, donc en centre de dépistage de l'autisme. Ils ont transformé ça en une espèce de plateforme et y a encore plus d'attentes.
Ah ben bon.
Voilà. Non mais Florian, vous avez raison. En France, l'handicap est très peu pris en compte, que ce soit dans les écoles, dans le logement. Enfin, c'est une cata. Dans les transports, que ce soit quelle que soit
par
la
exemple,
métropole.
Par exemple, les Jeux Olympiques, on nous avait promis que ça serait les Jeux Olympiques.
À part les Saint-Denis, ouais. Comme par hasard.
Non mais les Jeux Olympiques, on nous avait dit que ça serait les Jeux Olympiques de l'inclusion.
Ouais,
y a
rien.
Alors certes, les nouvelles stations de métro, etc. Mais prenez le métro avec un fauteuil. Avec une poussette,
même,
quand vous avez des enfants,
béquilles.
C'est l'enfer.
C'est infaisable.
Même les trottoirs.
Ah oui, bien sûr,
les trottoirs avec les fauteuils roulants, quand tu dois pousser une personne, c'est la catastrophe.
Les trottoirs, ils sont dénivelés par rapport à la route.
Florian, on va être avec Taïeb aussi, qui nous appelle du Rhône, de Lyon. Bonjour, oui. Taïeb.
Bonjour, les grandes gueules.
Est-ce que vous avez vu le film ou pas, Taïeb ?
Je vais le voir ce week-end. Moi, justement, je suis très content qu'il y ait un film sur le handicap, parce que le dernier, en fait, le film remonte avec plusieurs années, c'était Intouchable. Et en fait, moi, ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est que j'espère que ça permettra d'un peu de changer le regard. Moi, typiquement, je cherche une opportunité au sein de, je sais pas, d'entretien chez des concurrents. Clairement, il y a beaucoup d'a priori. Et en fait, les gens, en fait, présupposent ce qu'on est capable de faire ou de pas faire. Au lieu de poser des questions et vont anticiper sur une possibilité de d'absence ou de non-présence ou de manque de pouvoir réaliser certaines tâches. Or, en fait, mais justement, au-delà d'être comme tout le monde, moi je suis enfin content qu'il y ait quelqu'un qui, avec bienveillance, se foute de notre gueule. Moi je suis super content.
Mais pourquoi tu dis se foute de notre gueule ? Pourquoi vous dites ça, Taïeb ?
Parce qu'il se moque dans le film.
Attendez, parce que vous êtes handicapé vous-même ?
Oui, je suis handicapé moi-même. Et c'est que je suis handicapé moteur, très affiché, ça se voit. De toute façon, quand on me voit, on m'oublie pas vu mon handicap moteur. Mais justement, c'est que moi, j'ai essayé notamment de contacter des comiques à ce propos-là, c'est de leur dire, c'est soit effectivement on est comme tout le monde et faut se foutre de nous comme n'importe qui, soit on est en dehors de la société et à ce moment-là, faut nous préserver et pas se moquer de nous. Mais si on veut partir de la société, faut se foutre de notre gueule, nous tailler, nous critiquer et justement s'amuser avec nous et de nous, au contraire.
En France, c'est un délit.
Non, c'est bon, faut arrêter la défense. Moi, comme je dis aux comiques, moi je peux salade par un tonnerre, foutez-vous de ma gueule.
Vous vous souvenez qu'il avait été attaqué, Patrick Timsit, pour son sketch sur les handicapés, il s'était retrouvé au tribunal.
Mais là, ce qui marche, qui l'a vu là autour de la table ?
Moi, je suis allé le voir il y a 48 heures à Dunkerque, la salle était pleine, et on parle de sujets complexes là, handicap, ça part en débat, parle de politique, et en réalité, c'est pas ça le film. Le film, pour moi, c'est avant tout une bonne comédie familiale française. J'ai passé un bon moment, j'ai versé ma petite larme parce que c'est émouvant. Ça montre que on peut encore faire des films en France qui soient pas ni moralisateur, ni dans une espèce de politiquement correct. C'est pas la nouvelle histoire d'amour de la cadre de la défense qui tombe amoureux de Boubacar qui arrive, qui est un jeune migrant. Non, c'est bon,
ah,
on a marre de ça.
La place là, le truc du migrant. Mais, là.
T'es obligé. La minute en train de dire, c'est pas qui place le migrant.
Et tu vas voir où je veux en venir.
Le médicament, il fait plus effet.
La cadre serait jouée par Camille Cotin, par exemple.
Alors attendez. Et je vais aller au bout, Stéphane. Je pense que le succès de ce film montre que les Français n'ont pas peur de la différence.
Ah,
et vraiment, quand c'est pas moralisateur, les gens y vont et apprécient.
Non, c'est pas vrai. Objectivement, il y a une vraie discrimination. C'est-à-dire que réellement, moi, je le vois. En passant le retien, objectivement, si. Moi, je le vois bien. Je suis désolé. Le nombre de fois où j'ai pas été pris dans des emplois, ou des sociétés même que j'ai contacté peu de temps après, je leur ai demandé si mon handicap avait joué contre moi. Eux-mêmes m'ont dit, objectivement, ça fait partie intégrante de notre décision. Donc, je suis désolé.
D'accord, mais le film, ce que dit Antoine, c'est que le film, c'est pas un film à thèse. Il est pas là pour faire la leçon. Et justement, je pense que c'est ça qui marche. Ça marche parce que c'est sous le biais de l'humour, de la comédie.
Ah ouais.
C'est un peu politiquement incorrect. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un humour quand même qui est très, très, très correct, pour ne pas dire inexistant. Parce qu'on a toujours peur de prendre une plainte d'une association, de quelqu'un qui se serait senti offensé. La personne se sent offensée.
Exactement. Et Taïeb, je me permets, vous voyez tout de suite, vous embrayez sur la question de la discrimination, je ne nie pas les difficultés, mais là, ce sujet, sa force, c'est de pouvoir parler du handicap sans aller sur ces sujets.
Moi, j'ai vu mardi, j'ai adoré parce que quand je suis sorti du cinéma, comme tout à l'heure notre auditeur, j'ai dit, mais c'est bien, c'est un film sur les gamins, mais c'est pas des gamins en fait. C'est des adultes, ils ont une quarantaine d'années. Ouais, donc tu sors, mais pourquoi tu dis que c'est des gamins? Parce qu'ils se comportent comme des gamins, avec de l'humour, beaucoup de légèreté. Ce truc qu'on nous voudrait tous un peu avoir, justement, c'est cette légèreté de la vie. Et quand tu rentres, quand tu les vois, la scène où ils sont dans le magasin, je vais pas raconter toute vie, mais quand ils sont dans le magasin et puis qu'ils commencent à se moquer d'eux-mêmes et qu'ils traitent les autres de débiles, etc., je trouve ça hyper drôle. Et il y a une autre scène qui m'a plu, mais ça, c'est le côté restaurateur, c'est quand ils jouent, et on l'a tous fait, quand ils jouent aux cuisiniers, aux serveurs, et qu'ils en ont marre de manger de la malbouffe, des boîtes et des trucs complètement dégueulasses, et qu'ils commencent à cuisiner du frais. Moi, j'ai trouvé ça génial, mais ça m'a rappelé aussi une autre scène, plus délicate, celle que j'ai vécue à la ZUP de Mulhouse, où nous avions une école pour personnes à déficience sensorielle. Et je me souviens de gamins qui ramassaient de la merde, leur donnaient en disant que c'était du chocolat et leur faisaient bouffer ça. Et ça, c'était absolument abominable. Et je vois que ce film a été tourné, et c'est aussi une réalité, à la campagne, pour préserver ces gamins. Parce qu'effectivement, quand ils sont face au grand public, eh bien, ça se passe pas bien. Mais je trouve que le fait de montrer justement cette accessibilité, cet humour, et le fait qu'on puisse aussi rire avec ces personnes qui sont des personnes à part entière, comme nous, avec quelques différences comme on peut tous avoir, eh bien, moi, j'ai trouvé que ce film ça peut aider. Formidable. Ouais, ça peut aider.
C'est ce qu'on appelle un feel-good movie aussi. Parce que dans une société un peu anxiogène, dans des moments un peu, où l'actualité est un peu dure, je pense que ce genre de film, ça fait du bien aussi.
Je remercie Florian et Taïeb d'avoir été avec nous. Merci, messieurs. Et enfin,
on peut salut
Taïeb, merci d'avoir été dans les GG. Dans un instant, on en parlera avec Jean-Charles, dont le frère est handicapé. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Oui, je voulais dire quelque chose.
Mais je sais plus.
Moi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est que moi, je crois vraiment au septième art. Non, mais si, c'est vrai. Oui. Pour parler de choses dont les gens ne pensent que par des clichés. Je suis désolée, l'handicap en France, les gens, ils ont des clichés. Ils se disent pas « Ah, mais en fait, il est comme nous, il aime bien rigoler, il est pas bête. » Je suis désolée, ce qu'il a dit tout à l'heure, l'auditeur, c'est une réalité.
Le film donne pas de leçons, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Et d'ailleurs, évidemment, faut passer par l'humour. C'est comme moi, quand je parle du sans-abrisme via le théâtre, je le dis avec beaucoup d'humour noir, parce que sinon, les gens, ils vont repartir en chialant. Et le but, c'est de montrer qu'est-ce que c'est d'être sans-abri.
Avec
comme
la légèreté, enfin.
Et moi, je trouve que le titre est très bien, parce que moi, je reste convaincu que quand, et tout ça à cause de la société, quand on a souffert de l'exclusion au plus profond de ses entrailles, eh ben, n'empêche, on a forcément quelque chose en truc. que les gens qui n'ont pas, qui ne passent pas par un handicap ou qui ne passent pas par des, je sais pas comment dire,
des difficultés de vie,
des difficultés de vie, mais atroces.
Alors Jean-Charles est avec nous.
Attends, j'en profite. Vas-y. Je voudrais, Alain, qu'on fasse un bonjour à
Média Handicap.
À Sébastien
Proyard.
Et je peux vous assurer que Sébastien, que je commence à bien connaître grâce à Alain, ben je peux vous assurer quand on sait d'où il vient. Mais ce mec,
il a la maladie de Charcot, ouais, il s'occupe beaucoup avec son association de handicapés lourds dans les maisons
que même nous, on n'a
d'aide
pas.
Spécialisée. Oui, ouais, bien sûr, on a fêté les 20 ans de Média Handicap.
Et toi, qui as rencontré, tu vois, Lisa et tout,
oui, bien sûr.
Bien,
on y était avec Elina, on les salue, on essaie de les aider en parlant d'eux, notamment en Média Handicap, parce qu'il faut soutenir tous ces gens qui sont dans des structures handicapées lourdes où parfois on manque de personnel. Et c'est vrai que c'est un combat quotidien, un combat de tous les jours. Jean-Charles, bonjour.
Oui, bonjour.
Jean-Charles, vous avez vu le film ?
Oui, tout à fait, oui.
Et qu'est-ce que vous en dites de ce film, alors ?
Bah, je le trouve extraordinaire, parce que moi, j'y suis allé avec des amis, avec ma famille. Ma femme, ma fille n'étaient pas très friandes de venir avec moi, parce que, tu vois, on va se moquer des handicapés, parce qu'elle voyait Artus avec son spectacle, etc. Elle ne le connaissait pas trop. Et lorsqu'on regarde ce film, effectivement, vous disiez que ce n'est pas une leçon de vie, mais on se rend compte de la singularité et puis la difficulté qu'il y a pu avoir à faire ce film. Et aussi, on ressort de là allégé. La fin de l'histoire est assez poignante. Oui. J'ai vu ma fille avoir une larme, ma femme qui se dit « Ah ouais, je me suis trompé ». Voilà, j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui sera dans ce cas-là et les réticents qui aillent le voir, parce que ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien.
Mais ça fait du bien de voir vous, ça. Vous avez un frère handicapé, c'est ça ?
Oui, tout à fait, oui. Un frère handicapé, on a été concerné dans la difficulté. Hein. C'est un handicap assez léger, mais pour vous dire, à l'époque, 7 ans d'attente avant de rentrer dans un ESAT. Ça a été très compliqué. Il est resté longtemps chez mes parents qui ont tout fait pour lui. Là, il est autonome, etc. Donc, il s'en sort assez bien. Mais voilà, et quand on voit ça, on en sort vraiment réjoui. Quoi.
Et surtout, ce film met l'accent sur ces héros aussi que sont les éducateurs,
oui.
Qui changent en fait la vie.
Les accompagnants.
Et les accompagnants, tous ceux qui participent à s'occuper de ces personnes qui sont en situation difficile. Ouais. Et donc, c'est un sacré coup de projecteur aussi pour tous ces éducateurs et éducatrices.
Complètement, les éducateurs, les professionnels de santé qui gravitent. Hein. Je suis infirmier de profession, j'ai travaillé aussi dans le monde du handicap. Et effectivement, ça met en lumière l'amour, parce qu'on peut parler de soins et de rester de son côté et pas avoir d'affect, mais c'est pas possible avec des personnes dans cette situation. Et au bout d'un temps, bah voilà, comme vous le dites, ça va vraiment en lumière ce rôle-là aussi, et puis de l'importance qu'ils prennent dans nos vies, quoi.
Bien sûr. Merci Jean-Charles d'avoir été avec nous dans les grandes gueules. Merci. Allez, un dernier témoignage, celui de Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour tout le monde. Donc en fait moi j'appelle parce que j'ai le syndrome juste de la Tourette depuis que j'ai 6 ans en fait. C'est un syndrome assez rare, peu connu mais connu. Bon, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant à la télé, sur internet, dans des créations. D'ailleurs, c'est Cigarette et chocolat chaud qui est un film extraordinaire qui parle de ce syndrome. Et en fait, moi j'ai kiffé le film, hein, parce que c'est l'humour. Hein. Moi mes potes ils me font rire avec mon propre syndrome, je les fais rire.
Vous pouvez rappeler c'est quoi le syndrome Gilles de la Tourette ?
Alors j'ai 35 000 contractions donc de muscles par jour en moyenne, et j'ai des TOC aussi, des troubles obsessionnels compulsifs.
D'accord.
J'ai le TDAH, j'ai la bipolarité, en fait tout ça rentre dans un syndrome qui s'appelait syndrome Gilles de la Tourette. Et quand j'étais petit, j'ai vécu un calvaire, hein, collège, lycée. Ah,
j'imagine.
Ça a été terrible, parce que le regard de l'autre, si on donne des armes aux enfants, ils se tuent, quoi. Donc franchement, et aujourd'hui j'en parle avec une force, parce que j'en ai fait une force, j'ai fait du théâtre, parce que dès que je fais du théâtre, en fait j'ai plus de tics, j'ai plus rien. Ah, dès que je chante, c'est pareil, comme c'est Vincent Lindon, je pense que vous connaissez.
Voilà,
et du coup, l'humour, la créativité, c'est génial, voilà.
C'est super, en tout cas, vous en parlez très bien, et ce film, parce que dans ce film, il y a un handicapé qui a le syndrome Gilles de la Tourette.
Oui, exactement.
Il y a un peu tous les syndromes, en fait. Mais il y avait un film qui avait été sorti en 2014 d'Éric Lartigot, qui s'appelle La famille Bélier.
Qui avait
cartonné justement.
Et d'ailleurs, intouchable aussi.
Excusez-moi, je fais une parenthèse qui a été extraordinaire de ce film. C'était des parents qui étaient sourds. Et en fait, c'était que dans des salles, mais pas pour les sourds et muets. Alors là, j'avais trouvé ça énorme.
Oui, c'est pas faux non plus.
Jean-Baptiste, félicitations dans tous les cas pour en parler comme ça facilement, librement avec
nous. Toutes les salles de cinéma, les fauteuils roulants pourront avoir accès dans les salles de cinoche. Voilà.
Bah, c'est
pas toujours le cas, je peux te le dire, moi. Non, mais il n'y a pas que Paris dans la vie. Hein.
Donc, vous recommandez le film, Jean-Baptiste ?
Comment ?
Vous recommandez ce film ?
Ah oui, carrément, carrément. Et je vous recommande vous aussi à la France entière. Hein. Voilà.
Merci Jean-Baptiste. Salut, merci Jean-Baptiste. D'avoir pris la parole dans les GG. Salut Jean-Baptiste. Alors, on a posé la question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez du film ? Un petit truc. En plus, est-ce que ces films grand gueule sur le handicap, est-ce qu'il peut faire avancer la cause ? Ça peut faire changer les choses dans le regard sur le handicap ? Vous dites non. Non à 65%.
Un film ne suffira pas.
Oui, c'est ça
que ça veut dire.
Le message que les Français envoient.
Mais il y participe.
Oui, oui, mais bon, derrière,
il y participe 35% et mais non, le chantier est beaucoup plus important que ça, à 65%.
C'est vrai, mais le politique, qu'est-ce qu'il fait ? Il va regarder le nombre d'entrées, il va voir qu'il y a plus de 3 millions d'entrées. Il y a un
truc. À mon avis,
électoralement, il y a un truc. Donc
ils vont aller jusqu'aux 5 millions, là. C'est bien parti.
Oui, complètement. Allez, dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, les restaurants, les hôtels, les avions, compagnies aériennes sans enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce
que
c'est... Bonheur ou cauchemar ?
Voilà, bonheur ou cauchemar. Est-ce que c'est discriminant ou après tout, c'est la liberté du commerçant de dire, moi, je vous fais un petit espace sans enfants, vous venez ou vous venez pas après tout. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
Vous écoutez RMC. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
Mais non, c'est au contraire, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on disait, ça montre que le chantier est plus important qu'un seul film.
Les gens sont prêts, c'est pas un film.
Voilà.
Envoyez Jackpot.
Ah, je te le retrouve et je te l'envoie. Attends, Elena Dumont, et c'était on n'était pas encore à la télé.
Et si tu veux, aujourd'hui, avant, tu peux gagner un t-shirt, un truc, un machin. J'en s'en fous aujourd'hui. Ce qui est sympa, c'est de leur offrir des voyages avec un sponsor ou de leur dire vous gagnez 20 000 balles, quoi, ou 10 000 balles ou 15 000 balles. Nous, de toute façon, avec les milliers de SMS qui arrivent, l'argent, il est rapidement remboursé.
Mais il a raison, Artus. Mais si, ça marche.
T'as vu le théâtre, Artus Martin.
Et il est bon hein, dans le film, Artus. Hein. Tu l'as vu ?
Il est quoi ? Bon.
La bande-annonce me fait rire.
Ouais.
De la douche.
Ouais, c'est bon.
Ok. Stéphane ?
Oui ?
Tu peux nous re-raconter l'histoire de tout à l'heure, mais je sais plus ce que c'était. C'était quoi ?
Ah, sur les cafards.
Ouais.
Donc raconte, Biarritz.
J'ai fait une pub.
T'étais en région, voilà, je sais pas. T'étais dans le sud-ouest, tu dis pas le truc. Mais non, pourquoi ?
En podcast.
Dans le sud-ouest.
D'accord.
Merde.
Ah bah oui.
Bon. Attends, quoi alors ?
L'handicapé était joué par un acteur normal. Aujourd'hui, okay. Rain Man,
on va trouver autre chose.
Les Américains reprocheraient à Dustin Hoffman de jouer l'handicapé.
Bah ouais, mais bon, ce serait peut-être mérité.
C'est de l'appropriation culturelle.
Mais oui, je suis sûr. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, tu peux plus faire Rain Man ou alors tu serais obligé de le faire avec un.
Oui, parce qu'ils vont dire ouais.
Voilà.
C'est vrai.
Ce qui est débile parce que le principe de l'acteur, c'est de jouer justement quelqu'un qui n'est pas.
Je sais. Non.
Et d'ailleurs, tu sais, en 2000.
Tu vois, on reproche maintenant aujourd'hui à Tom Hanks. Il a joué dans Philadelphia parce qu'il n'était pas homo.
Qui a déjà fauté en
complètement débile.
Tu sais, comme
il n'avait pas le sida aussi.
Ah ouais.
Moi j'adore.
Parce qu'il n'est pas mort. En fait, les morts devront jouer par des morts bientôt.
Ah ouais. Action et vérité, les GG.
Bon, vas-y, allez, vas-y.
Action, vérité.
Vas-y, dépêche-toi.
Antoine, parce que action, vérité.
J'ai toujours refusé ce jeu.
Oh, depuis tout petit.
Je t'ai bien d'accord, toi.
Mais c'est rigolo.
Mais non, mais il a raison, Antoine, parce que tu te retrouves à la
con. Avec Elina. Action ou vérité.
Fais-le avec Elina, vas-y.
Elina, action, vérité.
Vérité.
Bon, bah voilà.
Est-ce que t'as déjà
fauté? Mais t'as pas de question derrière.
Est-ce,
ah
que bon, est-ce que t'as déjà fauté?
L'action ou vérité, ça tournait toujours aux questions con, cure, récession, le
pognon,
t'as déjà volé de l'argent.
Est-ce que tu es capable d'embrasser Bidule?
Ça
fait un podcast, ça, c'est bien.
Qui est le plus beau, Alain ou Olivier?
Ah, là, c'est compliqué pour moi parce que, en fait, j'adore l'humour d'Olivier. Olivier me fait beaucoup rire.
Et j'aime
j'adore
la
sensibilité d'Alain.
Oh, c'est mignon.
Puis moi, je regarde pas les hommes, je sais pas quand.
Elle regarde ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà.
C'est ça le plus beau.
Mais pardon,
elle
n'est
pas comme toi, Anaïs.
Elle
n'est pas sur
de
l'âme. Elle n'est pas superficielle.
Action, vérité, c'est ça les questions.
Non, action. La question, c'est des actions. Est-ce que tu es capable d'embrasser Caroline?
Moi, je suis allée avec des mecs des fois. Tout le monde le disait.
Des mecs.
Mais Elina, t'es hyper belle. Qu'est-ce que tu fous avec un mec aussi moche? Voilà ce qu'on me disait.
Ils voulaient te pécho, ceux qui t'ont dit ça.
Bah, tu sous-chopais.
On a tous dit ça.
Il prend l'argent.
Qu'est-ce que tu fous avec lui? Avec derrière l'idée de se dire, bon, bah, tu serais mieux avec moi.
Ça tourne.
Ok. Allez. Stéphane, action, vérité.
Ce que tu veux.
Attends.
Action. Ah!
Mais on va pas.
Bon, voilà. Super. Merci pour ce bon moment.
C'était un super podcast.
Anaïs, action ou vérité?
Bah, ah oui, ça action, c'est vérité, Anaïs. Ça.
Vérité.
Alors, vas-y. Alors.
Tu serais capable de coucher avec Chipou.
Vous écoutez RMC. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier
Truchot. Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous, 32-16 pour discuter, pour débattre, pour témoigner. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, la première en DGG. Elle est déjà en podcast, si vous voulez. Le podcast, vous le rattrapez sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr et c'est comme ça que vous avez aussi les petites anecdotes qui sont racontées par les GG. Et puis là, il y a Anaïs Sainz, notre productrice, qui nous a fait un petit action ou vérité là pendant la
retour à l'enfance.
Oui, mais ça, vous retrouvez ça sur les podcasts. Elina Dumas, Antoine Dire, Stéphane Manigold, voilà nos trois GG et c'est notre nouveau sujet de discussion maintenant.
RMC, les grandes gueules.
Mariage, restaurant, hôtel sans enfants, est-ce qu'à votre avis, c'est discriminant? C'est ce que l'on appelle, de l'autre côté de l'Atlantique, l'espace no kid, pas
oui,
d'enfants.
Et en français, c'est le marketing du sang, en fait. D'ailleurs, ça s'applique à plein de choses, sans gluten, sans sucre, sans contact, sans alcool, et donc sans enfants. C'est un nouveau marketing, et donc il y a des professionnels qui proposent de voyager sans enfants, des restaurants sans enfants, des hôtels, clubs sans enfants, et même maintenant des fêtes de mariage. On exclut les moins de 15, voire les moins de 18 ans. Il y a un faire-part qui disait, nous vous précisons que le mariage est réservé aux plus de 18 ans, merci pour votre compréhension. Alors pourquoi? Parce que on ne tolère plus finalement les enfants des autres. En plus, ça coûte. On fait des économies parce que dans le mariage, comme ça, t'as pas les enfants, ça te fait des repas en moins. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est vraiment choquant cette façon d'exclure, de discriminer les enfants au moment où d'ailleurs on fait de moins en moins d'enfants? Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on veut des endroits sans enfants.
Olivier, excuse-moi, mais pendant les mariages, c'est pas les enfants qui mangent le plus. Hein.
C'est pas faux. C'est tonton Nestor.
Ils sont plus en train de s'amuser.
Qui est le premier au bar.
Pour moi, ça me choque. Hein.
Il est même pas ouvert.
Ça te choque, c'est le sans-enfant?
Oui, ça me choque parce que pour moi, les enfants, c'est la vie et ça apporte tellement de choses dans une soirée. Et puis moi, je trouve que après, ça peut aller très loin. Tu vois, on commence par des espaces sans enfants. Bientôt, ce sera, alors je sais pas si je peux le dire, mais ce sera.
Des églises sans enfants?
Des wagons sans enfants?
Non, mais on peut aller plus loin. Ça peut être, je sais pas quoi. Ça peut être sans
des supermarchés sans enfants.
Voilà, supermarchés sans enfants.
Ça existe, hein, sans qu'il y ait le caprice du.
Ça existe, ça s'appelle un sex shop.
Sans
qu'il y ait le caprice du gamin qui veut ça.
Non, puis en plus, attends, on devient quand même grave en tant qu'être humain.
Ça te gêne.
Non, mais
on moi, supporte donc, plus l'autre.
Quand je prends, c'est ça qui. Ouais. Moi, quand je suis dans un train. Ben oui, il y a des gosses, ils crient parce qu'ils ont faim. Bon, enfin, excuse-moi.
C'est exactement là où je voulais en venir. Alors, c'est que, en fait,
Moi, ça me paraît un peu ahurissant de dire du sans enfant. Mais finalement, aujourd'hui, t'as toute une génération d'enfants rois pas éduqués par leurs parents, avec la maman complètement bobo. Mimosa, tais-toi un petit peu, s'il te plaît. Le truc hurle dans le train. Non.
Un jour, tu vas rencontrer Kader, Mimosa. Fais gaffe.
En fait, on supporte pas les enfants mal élevés, quoi.
Alors voilà. Moi, je veux qu'il y ait des enfants partout qui courent, c'est sympa, etc. Par contre, le gamin mal élevé qu'on laisse hurler dans le train, etc. Non, mais ouais,
je suis désolé, dans le train, moi, des fois, j'ai vu des enfants parce qu'ils ont trop chaud, parce qu'ils ont soif.
Je reconnais, Elina.
C'est pas parce qu'ils sont mal élevés.
Elina, t'es assise dans le train et tout d'un coup, tu vois arriver un bébé qui s'assoit à côté avec sa maman. Tu vas dire,
tu peux rien faire.
J'espère qu'il va dormir.
Je sais pas si c'est à cause de ma voix qui est grosse, mais plusieurs fois dans les transports TER, machin, dans la poussette, les gamins crient. Bon, la mère, elle me dit rien, principe. J'ai dit, bon, tu vas te taire maintenant.
Et le petit se retourne vers sa maman, il fait, maman, j'ai peur.
J'ai vu un fantôme.
Donc, en fait, vous voyagez avec Lina Dumont.
Quand une momie. Une personne extérieure vient, ça marche.
Ouais.
Et toi, Stéphane, des restaurants, toi qui es restaurateur, tu pourrais imaginer avoir un restaurant sans enfants?
Non, parce que...
On peut venir dans tous tes restaurants avec tes enfants.
Je vais te raconter une anecdote. J'avais emmené mes enfants dans le restaurant de Paul Bocuse à Collonges.
Ah oui.
Et oui, parce que je souhaite qu'ils aient un palais. Et Monsieur Paul, qui arrive avec le directeur de l'établissement, dit ben là, c'est Monsieur Manigold. Et Monsieur Paul dit lui, je m'en fous, il est déjà convaincu. Ce que je veux convaincre, ce sont ses enfants. Et ben quand il a dit ça, il a tout dit. Il a raison. Parce que si on veut demain que dans nos établissements, les enfants puissent venir, il ne faut pas commencer par les rejeter. Il ne faut pas rejeter les enfants des hôtels. Il faut au contraire. Moi, je trouve qu'il faut les habituer à venir dans nos établissements. Pourquoi ? Parce que McDonald's, c'est très bien les accueillir. Hein, avec le joli ballon, le petit jouet, le machin, ça, ils savent très bien faire. Mais Monsieur Paul, il avait compris ce truc. Et des cahiers de coloriage à son effigie, etc. Moi, je dis que la maison Paul Bocuse, c'est un modèle d'intégration pour les enfants.
D'accord, parce que toi, tu
parles... Il faut avoir les moyens.
Une fois dans sa vie, tu parles du palais. Oui. Mais McDo, c'est pas pour le palais, c'est pour en faire des consommateurs.
Ah non.